sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans détour, 13 mai. Aujourd'hui, on a une journée bien spéciale. On a des invités qui vont nous informer de toutes sortes de choses. On a le docteur Guillaume Fortin, optométriste et président de l'Association des optométristes du Québec. On va parler du mois de mai, qui est le mois de la santé visuelle. Et des choses en particulier au sujet de la sécheresse de l'œil, vous allez voir, c'est quelque chose qui guette tout le monde, il faut y faire attention. Madame Annie Desrosiers, qui est directrice générale de l'organisme La Source, Association des personnes handicapées du Haut-Saint-Maurice. On est à Latuc avec Madame Desrosiers. On va parler des 27 et 28 mai prochains où il y aura des activités assez spéciales. Merci. Élisane Pellerin, à 12h45, fera avec nous la revue de presse jusqu'à 13h30. Mais pour commencer, on a le plaisir d'avoir avec nous Lynn Dubé, notre chronique techno. Bonjour Lynn, comment ça va?
Ça va bien. On va parler déplacement.
C'est le temps des vacances. Alors souvent, on bouge, on va visiter des villes, des endroits nouveaux.
Oui, des endroits nouveaux, donc souvent peu connus.
On est moins habitué à naviguer.
Ça peut faire plus peur quand on ne voit pas, mais on a des trucs à vous proposer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a choisi l'application Lazario pour continuer dans la direction que je me suis donnée depuis que je suis à Sans détour. C'est l'idée de pouvoir offrir une application qui est dédiée autant Android que iPhone.
Oui,
alors,
oui, tout à fait.
Je dois dire d'entrée de jeu que ce n'est pas ma préférée. Parce que ça ne veut pas dire que parce que c'est disponible sur les deux plateformes que c'est la meilleure.
Ah, ben dans ce cas-là, on va se garder une minute à la fin là, pour que tu nous parles quand même de celles que tu préfères, qui, je le suppose, sont exclusives à iPhone.
mais c'est probablement parce que j'ai expérimenté plus les autres. Hein. Quand on s'ajuste, on s'adapte plus, à un moment donné, on a un petit croche d'un bord plus que de l'autre. Et Lazario, l'application pour laquelle on veut se dédier aujourd'hui, je l'ai utilisée, mais peut-être pas assez expérimentée pour l'ajouter dans mes préférés.
D'accord.
Alors, c'est
Mais elle a l'avantage d'être disponible et sur iPhone et sur Android. Alors, pour un Android comme moi, c'est déjà ça.
Oui, et elle a aussi l'avantage d'être gratuite. C'est pas peu, chose d'intéressant. Et on va dire que c'est un GPS, mais on va juste mentionner que c'est un complément de GPS. Pourquoi? Parce qu'un GPS, pour tous ceux qui savaient déjà ce que c'est un GPS, ça va vous donner les directions étape par étape pour vous rendre à quelque part.
Oui.
Ici, on va parler d'un complément de GPS parce qu'on veut avoir des éléments qui ne sont pas nécessairement disponibles sur un GPS pour le commun des mortels.
D'accord.
Et dans ça, oui, justement, il est précis, il est curieux.
Ben oui. Quels sont ces éléments qui ne sont pas couramment disponibles?
Qu'est-ce qui est difficile pour quelqu'un qui a peu de vision ou plus de vision quand on se déplace, c'est d'avoir, entre autres, accès aux intersections. Quel est le nom de la rue? Alors, un GPS, si vous mettez un trajet, il va vous nommer le coin de la rue quand vous allez devoir tourner.
Exact. Mais si on continue en
ligne droite,
il ne nous donnera aucune indication tant qu'on n'a pas à changer de cap.
La trajectoire. OK? Donc, c'est ça. Alors, le GPS complémentaire, il est agréable pour ça parce que le GPS complémentaire, il vient par-dessus votre GPS Et il ajoute des petites informations comme ça, d'intersection entre autres. Et il va aussi ajouter que, bon, il y a un arrêt de bus. Il ne vous donnera pas le numéro, ils ne sont pas encore assez intelligents, mais bon, ils vont vous dire qu'il y a un arrêt de bus. C'est déjà pas pire parce que des fois, on se demande est-ce qu'il était sur le coin ici ou sur l'autre. Tu sais? Fait que ça nous indique quand même. Ça va vous indiquer aussi les boutiques autour. Mais
on peut aller s'acheter un café. Oui,
bien, en fait, on peut avoir aussi une idée de notre entourage, notre environnement. Hein. Souvent, quand on marche puis qu'on voit pas qu'est-ce qui se passe, à part que de prendre notre nez pour savoir, « Ah, il me semble que ça, c'est un McDo, ça, c'est un Subway, ça, c'est une pâtisserie. »
À part ça... Mais sinon, c'est tout pareil. Puis on peut même être dans un quartier résidentiel ou un quartier commercial. Puis
effectivement.
On ne fera peut-être pas la différence parce que souvent, dans les quartiers commerciaux, il faut faire attention de ne pas être trop près des murs parce que les portes ouvrent puis ferment souvent.
Ah, oh, puis il y a les parcs aux bêtes, hein? Pas les parcs aux bêtes, mais les parcs aux bêtes que vous avez en pleine tronche quand vous marchez.
Les bacs à fleurs en ciment aussi.
Oui, les bas d'autobus. On aime ça. Il y a tout plein de choses sur notre trajet. Mais donc, on a des informations complémentaires comme ça qui nous aident à mieux comprendre notre entourage, sauf que vous pouvez même aller filtrer. Hein, vous pouvez décider que là, si c'est une marche de plaisance, on active tout, ou si c'est une marche qui est vraiment spécifique, je sais où je m'en vais, je veux pas savoir quelle boutique, puis j'ai pas le goût que tu m'achales à toutes les fois, on peut tout désactiver ça. Fait que ça, c'est merveilleux. On peut aussi, et ça, c'est une des choses que j'apprécie de Lazario, on le retrouve dans d'autres applications que j'aime beaucoup aussi, mais pour moi, c'est plus un négociable d'avoir cette option-là, c'est de pouvoir avoir sur la page d'accueil les informations par catégorie. Ça veut dire que si je me cherche une pharmacie, ben, je peux cliquer sur le bouton « Pharmacie » et là, on va me lister tout ce qu'il y a proche de où est-ce que je me situe.
Mm-hmm. Oui.
Ça, c'est vraiment génial, surtout quand vous êtes dans un endroit que vous connaissez
dans une
peu.
Ville qu'on ne connaît pas ou peut-être on cherche un guichet automatique.
Quelque chose de même mieux que ça. Ça, c'est génial. Mais d'être à la maison et de pouvoir planifier son futur trajet, rien de plus sécurisant. Alors, je m'en vais à quelque part, je suis jamais allée là, je sais que tôt ou tard, je n'aurai pas le choix de me trouver un endroit pour aller dîner ou je n'aurai pas le choix d'aller, peut-être je vais aller me chercher un petit vin à SAQ, mais il est où? Alors, vous pouvez simuler votre endroit à l'avance, donc assis chez vous, dans votre confort de foyer, vous vous simulez là-bas, et vous retournez sur la page d'accueil, boutiques autour.
Ah, d'accord. Alors, on sait déjà à quoi s'attendre. Puis on planifie. Si on donne rendez-vous à quelqu'un aussi, on peut dire, je sais qu'au coin de telle rue et telle rue, il y a un Subway.
Il y a Tim Hortons.
On peut se rencontrer là. Et si pour une raison quelconque, on devait se rencontrer dehors, mais qu'il pleut, on peut comme s'ajuster.
Oui, effectivement. Puis là, ce qui est le fun, c'est que Lazario, c'est une application qui est, je dirais, internationale. Alors, vous pouvez être à la maison puis planifier votre prochain voyage aux États-Unis ou en Europe.
Puis savoir si je descends à tel hôtel.
Qu'est-ce qu'il y aura autour?
De quoi a l'air le quartier autour de mon hôtel?
Mon Airbnb.
Besoin d'un parc pour aller promener mon chien, où est-ce qu'il est le parc?
Effectivement. Donc, ça, là, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver sur les GPS. Hein. Les gens, ils vont pouvoir regarder à vol d'oiseau et tout ça, mais le trois quarts du temps, c'est pas accessible.
Non.
C'est une belle map, des beaux petits
icônes. Puis en fait, il y a les icônes des entreprises qui ont payé pour popper. C'est pas nécessairement celle qu'on veut.
Fait que ça, c'est bien, mais vous pouvez aussi décider de le combiner avec une application de GPS standard.
Comment ça se fusionne à ce moment-là? Est-ce que les deux parlent en même temps? Est-ce qu'ils se coupent?
Ben, en fait, ça devrait pas dans le meilleur des mondes, mais je dirais que même dans le meilleur des mondes, même si vous ne le combinez pas, des fois, Lazario, c'est un des désavantages que j'ai trouvé, c'est qu'il est trop bavard.
OK.
OK? Donc, moi, si je me déplace, ma sécurité, elle me dit que je veux avoir de l'information, mais j'en veux peut-être pas trop pour pouvoir entendre quand même la circulation autour de moi.
Exact.
Et l'autre fois, je testais parce qu'il fallait quand même que je cherche de quoi j'allais vous parler.
Ben oui.
Et là, j'avais l'information qu'on me disait que j'arrivais au coin d'Ontario et partenais près du bureau et qu'il y avait un arrêt d'autobus. Mais là, à tous les 15 mètres, ça me disait « arrêt d'autobus ». Puis là, ça recalculait le nombre de mètres.
Ben oui, ben
non,
oui.
C'est
mais
pas
là,
vrai, là.
Mais on ne peut pas opter out de l'arrêt d'autobus. On ne peut pas juste dire « ben maintenant que je le sais, on l'enlève des... »
En fait, ce qui est possible, puis c'est ce que je disais tantôt, c'est que dans les filtres, on peut dire qu'on ne veut pas les informations de transport.
Oui.
Mais là, si vous dites ça, ben, il ne vous annoncera plus l'arrêt d'autobus. Alors, il faudrait peut-être juste informer le développeur.
Ah, ben oui, l'arrêt d'autobus, quand il est à une distance, mettons, de...
De 30 mètres.
30 mètres.
Puis là, 100 mètres.
Bon, on le sait, on peut calculer les pas.
C'est en plein ça. Puis on sait que ça va être au prochain
carrefour,
coin de rue.
Ben oui, c'est ça.
Donc ça déjà, c'est intéressant. Des fois, c'est un petit peu ça l'enjeu de ces choses-là.
Mm-hmm.
Mais l'enjeu de ces applications-là, c'est que vous pouvez vous mettre selon l'application, on va appeler ça un marqueur, un favori, un point d'intérêt. Et c'est un peu comme quand on avait le petit poussette qui mettait ses petites miettes de pain pour retrouver son chemin.
Tant qu'il n'y a pas d'oiseaux, ça va bien.
Oui, oui. Mais là, on est correct. Vu que les oiseaux ne mangent pas de l'électronique, on n'est pas paix. Vous pouvez mettre tout ça et vous retrouver plus facilement. Vous pouvez en mettre un à la maison. Vous pouvez en mettre un devant les commerces que vous préférez. Et quand vous passez tout près, vous allez avoir l'information que vous arrivez.
À un des points qui sont répertoriés dans nos favoris.
C'est ça. Et à
Exactement.
Partir de ce favori-là, si ce favori-là est votre destination, vous allez pouvoir choisir de naviguer avec un GPS. Et là, ça va vous demander est-ce que vous voulez utiliser Google Maps ou Plan, qui est le IMAP, qui est pour l'iPhone. Donc, vous pouvez, en fonction de votre appareil, le combiner avec l'application qui est déjà installée sur votre téléphone.
D'accord. Ben merci beaucoup.
Et là, vous allez avoir tout.
Mais il faut quand même revenir à ce qu'on disait au tout début. Quelles seraient tes applications préférées sur iPhone? Si ce n'est pas Lazario, parce que Lazario est iPhone et Android, si c'était que iPhone, quelle serait-elle?
Mon coup de cœur, c'est Soundscape Community, qui est un open source, qui est une application maintenant libre de droit, qui a été repris, qui était à Microsoft.
Ça s'appelle Soundscape.
Vraiment, ouais, Soundscape Community.
OK.
Parce qu'il y en a plusieurs, elle a été reprise par plusieurs groupes. Moi, c'est personnel, mais moi, je l'aime bien.
D'accord.
Mais en même temps, j'aime beaucoup utiliser Blind Square, qui était payante, mais pour nous au Canada, qui est gratuite avec le Blind Square.
Là, je vais te poser une question, mais peut-être que ce n'est dans tes cordes, parce que c'est une question Android. Est-ce qu'il y a une application uniquement sur Android que tu préfères?
J'ai aucune idée.
Bon, ben, c'est transparent au moins.
Hein,
oui, bravo. Deux points pour la transparence, Lynn. C'est bien. Ben, je sais parce qu'il y a comme un tiraillement Android à iPhone. La plupart des personnes handicapées visuelles, on utilise ou utilise iPhone. Historiquement, c'était plus accessible.
Mais c'est parce que aussi, les applications vraiment en accessibilité, ils sont vraiment moins nombreuses
tout à
sur
fait,
Android.
Tout à fait.
Il doit en avoir, je ne peux pas croire.
Ben, Lazario en est une.
Mais Lazario, elle est connue. Elle n'est pas juste sur Android, mais oui, elle est connue pour quand même être utilisée sur les deux.
Ben, il ne me reste plus, Lynn, qu'à te souhaiter un très bel été, parce que je ne pense pas qu'on va se reparler avant l'année prochaine.
Avant l'automne,
oui.
Je me trouve des sujets, alors...
Ben ça, je suis sûr que tu n'es pas en peine. Puis de toute façon, le monde de la technologie est toujours en foisonnement de nouvelles idées et de nouvelles applis pour nous aider. Alors, je suis certain qu'on va avoir tout un menu. Ben merci encore
Excellent.
Pour une très belle saison. Puis je te souhaite un excellent été.
Oui, c'est réciproque. Bonnes vacances. Au revoir.
been holding out for way too long, been hoping you'll say you're mine. I've been so in doubt, you play along, down low and always behind. So go slow, don't rush, don't care too much, don't make me hold on to you. Girl, beware, you touch me just enough, and maybe I'll play your fool. Be singing, go, don't stop, won't feel no strain, no pop, won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit, just stay, get used to it. Won't be no lonely waves, run to the shore, to the shore, to the shore. It's a waiting chance and true romance, and stay way too young to go. Lights are fading, dancing crazy like there's maybe too much to know. It's the same old life, I'll pay the price, no dice, we all fall for love. Run away, think twice, no sacrifice, no stalling, no push and shove. Just singing, go, don't stop, won't feel no strain, no pop, won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit, just stay, get used to it. Won't be no lonely waves, run to the shore, to the shore, to the shore. Won't feel no strain, no pop, won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit, just stay, get used to it. Won't be no lonely waves, run to the shore, to the shore, to the shore.
Matt McHugh, un chanteur australien, Go Don't Stop, voilà. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Guillaume Fortin. Bonjour, docteur Fortin.
Bonjour, M. Beauregard.
Vous êtes optométriste et président de l'Association des optométristes du Québec. Mai est le mois de la santé visuelle. On aimerait ça, oui, en prendre soin de nos yeux toute l'année, mais ça prend des fois des moments forts pour rappeler aux gens des consignes ou des vérités, hein, qui sont importantes. Je sais pas trop par où commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets.
Exact.
Je vais vous laisser choisir les messages les plus importants que vous souhaitez faire passer en ondes.
Ben, je vous dirais que c'est ça, on profite souvent du mois de mai, mais à l'année longue, à l'association, on fait de la sensibilisation avec différents partenaires aussi. C'est un mois qui nous permet de rappeler l'importance. Autant, ça va, comme vous le dites, là, c'est très large, là, ça va de l'importance de l'examen de la vue chez les enfants avant l'entrée à l'école et même, je vous dirais, même plus jeunes. Et ça va aussi sur l'importance du dépistage des maladies, oui, de l'œil qui sont silencieuses à partir, plus je vous dirais, toute la vie durant, mais particulièrement à partir de la quarantaine et la cinquantaine et plus.
Comme le glaucome, entre autres.
Exactement, exactement, qui est une maladie silencieuse qui peut avoir une incidence très grave sur les dernières décennies de la vie des gens lorsqu'elle n'est pas dépistée dans le milieu de la vie des gens de façon générale. Donc, ça va, comme je dis, très large, ça ratisse très large. C'est autant important pour les personnes plus âgées que pour les enfants.
Dans ce cas-là, on va d'abord parler des écrans et des enfants, parce que ça, c'est un sujet qui a, oui, fait tout de même la manchette à plusieurs reprises au cours de l'hiver.
Et
je pense que là-dessus, la consigne est assez simple. Avant 18 mois, c'est pas une bonne idée.
Non, ben avant 18 mois, c'est pas une bonne idée du tout. Et là, on parle pas seulement du développement visuel, mais tous les professionnels dans le développement des enfants s'entendent pour dire que au niveau du développement global de l'enfant, c'est pas bon. Par la suite, en ce qui nous concerne, on parle beaucoup aussi de l'utilisation des écrans par rapport au développement de la myopie.
Oui.
Donc la myopie, tout le monde connaît ça, ça fait depuis toujours ou presque il y a des myopes, sauf que dans les dernières décennies, on a vu une augmentation assez rapide de la myopie dans les pays industrialisés particulièrement, et on n'est pas en reste au Québec. La myopie augmente et elle est plus élevée qu'avant, et elle atteint plus de jeunes qu'avant.
D'accord.
Donc ce n'est pas seulement une question d'hérédité, mais une question de surutilisation des yeux en vision de près, en bon français, de s'enfermer à l'intérieur aussi, de ne pas sortir dehors.
Exact. De ne pas élargir ses horizons.
un peu, avoir un mauvais équilibre, je vous dirais, dans l'utilisation des yeux, particulièrement pendant la croissance.
Oui.
C'est très mauvais, c'est très mauvais. La myopie vient avec des risques aussi sur le long terme pour certaines maladies de l'œil, au niveau de la rétine, entre autres. Donc, c'est important d'essayer d'endiguer le phénomène.
En lisant vos notes, il y a quelque chose de simple qui m'a frappé, là. C'est le truc du 20-20-20.
Oui, c'est un truc plus mémotechnique qu'autre chose.
Ouais.
De 20 minutes, regarder à 20 pieds et pendant 20 secondes.
Ouais.
Ça diffère un petit peu de je vous dirais, il n'y a pas de clarté là, parfaite sur combien de pauses on devrait prendre. Moi, je dis souvent à mes patients, c'est 2 minutes au demi-heure ou 5 minutes à l'heure quand vous êtes à faire de l'écran pendant une période soutenue.
Ouais.
L'important, c'est de prendre des pauses. L'important, c'est de prendre des pauses. Et comme je dis souvent un peu, prendre une pause d'écran d'ordinateur, c'est pas pour regarder son cellulaire.
Non, c'est pas une bonne idée, ça. Ça change
c'est
rien.
Ça. Donc, la pause de vision de près est faite pour regarder
par
au loin,
fenêtre, oui.
Regarder dehors, par la fenêtre. Donc, les yeux prennent vraiment une pause en termes d'accommodation, qui est le focus, et en termes aussi de convergence, qui est la position musculaire qu'on doit maintenir pour travailler en vision de près. Donc, c'est vraiment important de prendre des pauses, que ce soit le 20-20-20 ou 2 minutes aux demi-heures, 5 minutes aux heures. Choisissez dans ça ce qui vous plaît le plus et ce qui se prête le mieux à votre travail et essayez de le faire.
Ben oui, puis j'avoue que j'essaie de pratiquer ça, docteur Fortin, parce que souvent, je travaille à l'ordinateur à la maison, puis derrière moi, il y a des fenêtres qui donnent assez loin, je dois dire. Je suis chanceux, j'ai une perspective assez loin derrière moi quand je regarde par la fenêtre. Alors, je vois par-dessus les toits des maisons, puis je vois les arbres dans le fond, complètement dans un parc. Alors, j'ai peut-être l'air du voisin curieux là, qui régulièrement regarde ce qui se passe dans la rue. Ça fait du bien, oui, voilà.
Ça fait du bien. Je vous dirais que même dans d'autres domaines, il y a des physiothérapeutes qui nous disaient à un moment donné, c'est aussi important de se lever et de faire un petit peu d'étirement lorsqu'on est en position fixe pendant toute une journée.
Donc,
c'est aussi important de le faire pour nos yeux. Et pour les adultes, on s'entend, ce n'est plus dans l'objectif de contrôler la myopie. Quand l'œil n'est plus en croissance, la myopie se stabilise. Par contre, pour l'adulte, on voit beaucoup plus de sécheresse oculaire à l'utilisation de l'ordinateur parce que les yeux clignent beaucoup moins souvent lorsqu'on est concentré sur un écran.
C'est pourquoi les yeux clignent moins? Parce que...
C'est tout simplement un phénomène de concentration lorsqu'on est concentré sur quelque chose. C'est comme si le réflexe de clignement normal diminue. Et c'est la même chose lorsqu'on est concentré sur la route. C'est la même chose lorsqu'on est concentré sur un écran. Les yeux clignent moins.
Si on regarde la télé, par exemple, ça peut...
Si on regarde la télé, ça peut être similaire. Donc, le clignement stimule la production de la couche huileuse des larmes qui est produite au niveau du bord de la paupière. Et si on cligne moins sur plusieurs mois, plusieurs années, ça a un impact négatif sur ces glandes-là qui, elles, en vieillissant, s'atrophient.
Oui.
Et si on cligne moins parce qu'on a passé notre carrière devant un écran, on risque d'avoir une atrophie de ces glandes-là qui est beaucoup plus rapide. Et ça, on en voit maintenant de plus en plus jeunes.
Tout à fait.
Et comme les gens vivent de plus en plus âgés, Ben, on a des sérieux problèmes de sécheresse oculaire
ben oui,
quand arrivent les dernières
puis,
décennies de la vie.
Que ce soit de suivre un curseur sur l'écran ou une rondelle en regardant le hockey à la télé, là, ça demande un effort de concentration, puis on a tendance à ne pas vouloir quitter l'objet des yeux, si je peux dire.
Exact. Ouais. Je dirais que la sédentarité est bonne pour rien du tout dans la vie.
Non, la sédentarité n'est pas bonne pour grand-chose, point à la ligne.
Non. Hein,
mais ça, non. On va parler des yeux. Puis je pense que la sécheresse oculaire, les gens sous-estiment le dommage que ça peut causer à la longue à l'œil. Parce que c'est pas un état naturel d'avoir l'œil sec.
Non, c'est pas un état naturel. Évidemment, je veux pas alerter la population. On n'a pas énormément de patients, on va s'entendre, qui deviennent aveugles parce qu'ils ont les yeux secs. Là. C'est pas une maladie comme le glaucome, par exemple, qui va rendre les gens complètement dysfonctionnels. Oui. Par contre, ils peuvent devenir dysfonctionnels au niveau de quand tu as mal aux yeux, dès que tu vas au centre d'achat, quand une activité simple, justement, comme te concentrer sur la télévision ou sur la conduite, fait en sorte que tes yeux brûlent et que tes yeux se mettent à larmoyer pour essayer de se protéger en réflexe, ça devient extrêmement inconfortable et c'est difficile à contrôler la sécheresse oculaire. Donc, des fois, je dis aux patients, bon, il y a peu de chances que ça vous rendra pas aveugle, mais c'est extrêmement difficile à contrôler.
Ça va rendre la vie... Donc... Bien, on va toujours avoir une petite bouteille pour se mettre des gouttes dans les yeux, mais ça, c'est ça... Bon, c'est pas une vie, ça.
Non, et ça rend... Moi, ça remplace en quelque sorte les larmes, mais ça n'active pas le fonctionnement des glandes qui produisent la fameuse couche huileuse dont je vous parlais. Donc, c'est important d'avoir des bonnes habitudes et qu'on continue de prendre des pauses et pauses clignement. C'est important aussi quand les gens ont des problèmes qui peuvent peut-être être prédisposants à la sécheresse oculaire, comme je pense par exemple à la rosacée, qui est un problème de peau, mais qui va aussi atteindre les paupières, que ces gens-là consultent leur optométriste, puis prennent les conseils que leur optométriste leur donne et les fassent. Parce que souvent, le problème, c'est quand on est plus jeune, qu'on n'a pas de symptômes,
c'est pas grave, il se passe
faire.
Rien.
Oui,
ben oui. Quand on est jeune, on pense qu'on est fait en caoutchouc, qu'on va toujours rebondir.
Ouais.
Ben, c'est
et
pas
nous,
vrai.
On voit venir la chose. Donc, prenez les conseils de vos optométristes là-dessus.
Tout à fait. Et puis, pour terminer, le 26 mai, il y a un grand défi, 24 heures de pause en famille, une journée sans écran. Êtes-vous capable de passer une journée complète sans écran? Ça va être le 26 mai. C'est un défi que l'Association des optométristes du Québec vous lance. Ben, Dr Fortin, merci beaucoup.
On va essayer de le respecter ensemble ici aussi.
Parfait, super. Merci.
Ça me fait plaisir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, de retour après la pause. La tuque, ça bouge. Bonjour, Mme Annie Desrosiers. Comment allez-vous?
Oui, bonjour. Ça va très bien, merci.
Vous êtes directrice générale de l'organisme La Source, une association des personnes handicapées du Haut-Saint-Maurice. Puis, là, je parlais de la tuque parce que quand je pense au Haut-Saint-Maurice, je pense à la tuque, mais la Source, vous êtes actif à une échelle un peu plus grande quand même que juste la TUC.
Oui, en fait, on est pour toute l'agglomération de la TUC, donc tous les petits villages qu'il y a autour, mais également Wemontachi, ça va quand même assez loin, c'est un grand territoire.
La Bostonnais aussi?
Oui, la Bostonnais.
Bon, parce que je connais du monde qui vient de là-bas, alors j'ai quand même une petite idée de la... Petite idée de la géographie. Et vous avez un événement assez spécial qui va avoir lieu les 27 et 28 mai.
Oui, nous, en fait, on voulait faire quelque chose parce qu'on se rend compte que, bon, c'est sûr, souvent, les acteurs au niveau de la déficience intellectuelle, du trouble de l'autisme ou encore... au niveau de la déficience physique, ils viennent pas à la TUC ou très peu, puis on a pas la même accessibilité, je dirais, que les gens de Montréal ou de même déjà Trois-Rivières qui sont un petit peu plus proches. Donc, on voulait faire quelque chose qui rassemble vraiment plusieurs acteurs pour pouvoir amener de l'information aux gens sur des pistes de solutions simples sur la façon d'inclure les gens qui ont un déficit d'attention,
peut-être, oui, ou qui sont neuroatypiques, ainsi de suite.
Voilà,
alors, comme je pense que c'est l'expression qui vient d'un film d'Hollywood, if you build it, they'll come. Hein? Si vous créez l'événement, ils vont venir. Hein? C'est une façon
exactement
de le dire. Alors, vous avez créé un événement qui s'appelle les journées sensibilisation. Alors, ça finit par action. Parce qu'il faut que ça débouche quand même sur des gestes à poser. Et quand même, deux journées, ça, c'est pas rien. Ça va avoir lieu au complexe culturel Félix Leclerc. Ça, c'est à la TUC, ça.
Oui, exactement.
Puis vous allez avoir une brochette d'invités puis de conférenciers, conférencières. Parlez-nous-en un peu.
Oui, on a des conférenciers, conférencières super intéressants. On va avoir M. David Richard qui vient nous parler. En fait, c'est quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme. Puis il vient nous parler un peu de la palette émotive d'une personne autiste. Comment les émotions sont perçues, sont vues, sont senties par les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ensuite, on va avoir Mme Chantal Petitclerc, dont on n'a plus besoin quasiment de faire de présentation tellement
oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ceux qui ne la connaissent pas, c'était une très grande paralympienne qui a dominé son sport de course en fauteuil roulant pendant plusieurs cycles de Jeux paralympiques. Puis elle est aujourd'hui sénatrice.
Oui. Et puis, c'est un exemple d'attitude positive, de passion, de détermination. Puis, je pense qu'elle va pouvoir en inspirer plusieurs.
Oui, bien ça, oui, si vous la connaissez, vous allez la reconnaître si vous ne l'avez pas déjà vue, là, parce qu'elle a vraiment un sourire engageant. Là. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, on va dire ça comme ça.
Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un de très déterminé, c'est, je pense, le bon mot
tout à fait.
Pour le dire. Persévérante, déterminée.
Exact.
Voilà. Ensuite, on va avoir Mme Marisol Saint-Onge qui va être présente aussi avec sa conférence « Regardez loin devant ». Elle nous parlera encore là de résilience, de positivisme, d'attitude. C'est quelqu'un qui, Mme Marisol Saint-Onge, a été quadruple amputée des mains et des pieds suite à elle a attrapé la bactérie mangeuse de chair sur les quatre membres. Et puis, elle parle de regarder loin devant. Donc, je pense que ça aussi, ça va être une conférence très inspirante.
Ben oui, tout à fait. Puis, pas juste pour les personnes dans la salle ou ainsi de suite, qui vivent peut-être des situations qui, à première vue, sont traumatisantes, mais aussi les gens du milieu qui, eux, ne vivent pas avec des situations d'handicap, parce que vous voulez aussi sensibiliser le milieu à se regrouper autour de vous.
Exactement. Puis c'est des conférences qui s'adressent à tout le monde, qui peuvent être inspirantes, intéressantes pour tout le monde. C'est la façon de voir de ces gens-là, comment ils ont dépassé les défis de la vie. Puis tout le monde, on en vit tous des défis à plus grande échelle. Puis je pense que ça peut être inspirant.
Puis, parce que ce qui est important, c'est que je pense que c'est votre désir, c'est qu'après ces journées-là, il faut qu'il reste quelque chose. Il faut que ça l'ait fait, si je peux dire, bouger le milieu, si je peux dire, dans la région de la TUC. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste deux journées, puis après ça, on retourne chez soi.
Non, effectivement. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir aussi un rallye. Je pense que ça,
Comment ça va marcher?
C'est la pièce maîtresse des deux jours de rencontre. C'est un rallye qui va se faire dans la ville de La Tuque.
D'accord.
En fauteuil roulant.
OK.
On a déjà des élus qui ont confirmé leur présence. Donc, les gens vont se promener, vont avoir des buts, des objectifs,
d'accord,
des choses à trouver. Bon.
OK. Un peu comme une chasse au trésor où il va y avoir comme un rallye, comme vous dites, les gens vont devoir se déplacer du point A au point B au point C, ainsi de suite.
Oui, puis aussi se rendre, par exemple, trouver un coiffeur accessible en fauteuil roulant.
D'accord.
Mais ici, à La Tuque, ceux qui connaissent la ville savent qu'il y en a peu qui sont accessibles. Il y a toutes des petites marches ou
souvent,
même si
oui,
c'est un seuil de porte un petit peu plus difficile à passer.
Oui, à négocier, donc, je comprends. Puis, ça va faire, ça va mettre en lumière aussi les commerces dans votre région qui ont fait l'effort, à juste titre, de devenir accessibles.
Tout à fait, oui. C'est un peu ça qu'on le fait aussi, pour mettre en lumière les commerces qui sont accessibles, mais aussi pour sensibiliser les élus puis les personnes qui peuvent prendre des décisions. Qui peuvent donner des subventions, qui peuvent, bon, vous voyez un petit peu où je veux en venir, là. Tout le monde qui peut prendre une part de décision dans la possibilité de faire changer les choses.
Exact, que ça bouge, oui. Parce que
les gens, oui.
Si eux-mêmes vivent, si eux-mêmes vivent la situation d'être en fauteuil et de se déplacer puis d'être... je dirais, face à des obstacles là, qui sont souvent banals, mais qui sont très réels, ils vont en tirer une leçon. Puis quand il va être question d'améliorer l'accessibilité de la ville de La Tuque, je pense que ça va mieux passer comme message. Là. Ça va être une évidence.
Je pense que ça va être plus concret, effectivement.
Oui.
Hein? Je pense que les gens vont se rendre compte un petit peu plus du défi. Puis avant que ça nous arrive, bien, tu sais, on veut que les autres puissent profiter d'accessibilité, de pouvoir sortir, de pouvoir aller voir, d'aller se faire couper les cheveux,
oui,
d'aller chez le dentiste.
Exact.
Des petites choses qui sont de base pour nous, mais qui sont plus difficiles pour d'autres personnes.
Tout à fait. Mais ça, c'est deux journées-là, c'est, encore une fois, c'est les 27 et 28 mai?
Oui.
Exact.
27
ça, c'est,
et 28 mai.
Ça, c'est dans trois semaines d'ici. Mais en deux semaines, dirais-je. C'est le week-end dans deux semaines. Qu'est-ce que la source fait à l'année longue? Parce que ça, c'est un gros événement. Ça, c'est comme le pivot de l'année. Mais le reste de l'année, comment est-ce que la source contribue dans sa communauté?
Actuellement, la source, c'est il y a un centre de jour, il y a une portion centre de jour où les gens... qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou encore un handicap physique, se regroupent, puis viennent briser leur isolement, se rencontrer, faire des activités. Ça peut être pour conserver leur motricité fine, faire des activités aussi au niveau un petit peu plus physique,
d'accord,
aller randonner dans les sentiers,
okay,
ou des choses comme ça, pour pouvoir briser leur isolement, mais aussi conserver leurs acquis, parce que en restant chez nous, ben on perd un petit peu nos acquis, un petit peu plus à chaque jour, puis on veut faire en sorte que les gens puissent bouger, puissent faire des choses.
Exact.
Ensuite, il y a un volet hébergement aussi qui est tout nouveau à la source.
Okay.
Le volet hébergement, c'est les appartements Libertois qui vont ouvrir d'ici un peu moins d'un mois, en fait. C'est un gros mois, le mois de mai, pour la source, parce que les appartements vont ouvrir au mois de juin avec le déménagement des locataires.
Oh, on parle de combien d'unités?
C'est 30 logements, 3,5. Il y en a 15 pour des personnes qui ont une problématique de santé mentale et 15 qui ont... pour des gens qui ont une DI, un TSA,
d'accord,
ou une problématique physique.
Oh, d'accord. Mais ça, c'est un gros projet. Puis donc, ça ouais, va, les déménagements, là, ça va se faire au courant du mois de juin. Là, ça, c'est marquant. Puis ça va encore plus mettre pignon sur rue, si je peux dire. Ça, c'est à la TUC aussi, cet édifice?
Aussi, oui.
OK.
Oui.
Bon, ben voilà. Je pense que vous faites... Oui, allez-y. Je pense que vous faites du répit, je pense aussi. Vous offrez du répit.
Oui, bien, le volet répit, c'est le centre de jour.
D'accord.
On fait pas vraiment encore de répit. On veut offrir éventuellement du répit les fins de semaine, les soirs, pour les personnes un peu plus jeunes qui vont à l'école dans le jour. Mais actuellement, ce qu'on fait, c'est par le volet centre de jour, on offre du répit aux familles qui continuent de s'occuper de leurs proches après 21 ans, quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de... autre chose.
Oui, souvent, c'est là qu'il y a comme ça coupe souvent dans la vie des gens. Là, toute la prise en charge par le milieu scolaire disparaît. Puis, tout d'un coup, les familles se retrouvent avec des enfants adultes. Et c'est pas évident parce que y a les ressources pour les aider à passer au travers sont pas toujours au rendez-vous.
Non, c'est ça. Puis bon, quand on est loin des grands centres, on peut pas dire bon ben je vais amener mon proche, par exemple, pour une journée dans la ville d'à côté, parce que ici, la ville d'à côté, la plus proche, est à 1h30 de route.
Oui.
Fait que ça fait ben 1 heure plus, là, mais 1 heure de route, mais c'est quand même assez loin.
D'accord. Ben ça, la source, donc, ça va être le 28 mai prochain à La TUC. C'est là que la source vous donne rendez-vous. Puis vous avez vraiment des conférencières, conférenciers intéressants. Puis je pense que les gens devraient faire 1 heure de route pour se rendre à La TUC. Puis y aller, ça ne devrait pas être que les gens de La TUC qui soient au rendez-vous. Bien, Mme Desrosiers, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle température pour le rallye. Hein? Ça,
merci,
ça me semble être important. Puis qu'on puisse se retrouver à La TUC 27-28 mai prochain pour les journées sensibilisation. Voilà.
Oui. Oui, puis il faut dire que c'est gratuit pour tout le monde. Oh, donc, n'hésitez pas à faire le déplacement. Ça va valoir le coup.
Exactement. Puis ça va être deux belles journées festives, puis en même temps, qui vont ressourcer tout le monde. Bien, merci, puis bonne chance.
Tout à fait. Merci, bonne journée.
Ceux qui sont assez âgés pour l'apprécier savent que c'est Tubular Bells de Mike Oldfield, 1973. C'était aussi la trame sonore du film The Exorcist. Mais ce qui est remarquable de Mike Oldfield, c'est que c'est lui qui joue tous les instruments. La pièce au complet dure 27 minutes. Et c'est lui qui joue tous les instruments, qui l'a tout composé, puis il a fait en studio en mettant les pistes sonores les unes par-dessus les autres et en faisant tout le mixage lui-même. Un chef-d'œuvre, Mike Oldfield, Tubular Bells. Voilà, bonjour Élisane.
Bonjour.
Ah, ben là on va commencer parce qu'on a un tas de choses à...
On en a beaucoup cette semaine, François, ben oui, je n'ai pas chômé.
Non, je sais, je vois ça. Puis on commence au Portugal.
Commençons au Portugal, les personnes vivant avec un handicap veulent plus de droits. Donc, dans les villes du Portugal, les gens sortent dans la rue pour faire entendre leur voix. On a des manifestations pour des politiques plus inclusives, pour les personnes en situation de handicap qui voient de nombreux obstacles dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'accès à l'emploi ou encore les loisirs. On trouve que le gouvernement n'en fait pas assez pour faciliter la vie de ces gens-là et c'est un suivi au mouvement qui a commencé en Estonie, au Danemark, maintenant c'est au Portugal.
Et cette grande manifestation-là qui a eu lieu dimanche le 5 mai, il y a 8 jours, ben, comme vous le dites, c'était dans plusieurs villes du Portugal à la fois. Ben, on espère que ça... C'est incroyable comment... Enfin, incroyable, finalement, c'est simple et normal. Toutes les revendications se retrouvent à chaque fois. Hein? Logement, travail... éducation, accès aux services de santé, là, c'est je dirais les droits humains. Hein, c'est...
Oui, mais on est encore à se battre pour le minimum, François. Et on parle dans l'Union européenne de 27% de la population âgée de plus de 16 ans, qu'on appelle la population active, qui est en situation de handicap. Donc, c'est énorme.
C'est au-dessus de 100 millions de personnes, presque une personne sur quatre.
Plus d'une personne sur quatre.
27%, c'est plus d'une personne sur quatre. Vous parliez de l'Estonie, le Danemark, qui, avec le Portugal, sont les pays de l'Union européenne où il y a la plus grande proportion de personnes handicapées. Alors, ben, on souhaite que un peu partout, ces mouvements là, prennent racine.
Fassent avancer les choses.
Oui, exact. Puis que les uns les autres puissent bâtir une sorte de... Un printemps handicap.
Oui, hein, voilà.
C'est bon, ça. Hein?
Wow, oui.
Voilà, bravo. Au Maroc aussi, il se passe des choses.
Oui, au Maroc, on lance une plateforme digitale pour une carte de personnes en situation de handicap, un peu l'équivalent de ce qu'on a ici au Québec. Hein. Nous, forcément, c'est une carte pour... Le stationnement.
Mais il y a le loisir aussi.
Ou... Les cartes, effectivement, on a des cartes de loisir et pour le reste, pour nous, ça passe grosso modo par la carte d'assurance maladie. Par contre, au Maroc, on parle d'une carte qui va pouvoir attester du handicap des personnes, donc ils vont pouvoir demander des services à l'aide de cette carte-là. C'est nouveau au Maroc. Ils vont pouvoir aller sur le site Internet pour, évidemment, demander la carte sous preuve d'handicap, évidemment. Ça fait partie du projet d'un décret donc qui a été voté pour aider les personnes en situation d'handicap à mieux s'intégrer et à recevoir des services qui sont plus utiles.
Tout à fait. Alors ça, on voit que ça aussi, c'est une... C'est une démarche, si je peux dire, dans la bonne direction. Hein? Ça nous semble. Mais là, on a beaucoup toujours dans la lancée Oreo de nos chroniques. Ben là, on a plusieurs bonnes nouvelles après le Portugal, qui est une forme de bonne nouvelle ou.
Oui, bon.
Ouais, si on veut, bien que ça part d'une situation qui n'est pas la meilleure. Mais il y a des chercheurs qui ont identifié des causes possibles pour l'Alzheimer.
Oui, on va en Espagne, hein, François. Donc, on a une cause possible pour l'Alzheimer. On parle d'un gène qui serait responsable. Oh. Donc, dans environ 20% des cas d'Alzheimer, la cause serait génétique. Et on est capable maintenant de savoir quel gène serait relié au développement de la maladie d'Alzheimer pour les personnes qui développent tardivement. Donc, on parle du gène APOE, 4.
Oui, ah ben oui, et à ne pas confondre avec le APOE3.
Voulez-vous, voulez-vous extrapoler là-dessus, François, on vous écoute.
Mais c'est le APOE4, dont certaines personnes ont en fait deux copies. Puis ce serait ça qui serait l'origine du problème. Ça, on parle de 2 à 3 % de la population générale qui vont développer une forme tardive d'Alzheimer. On pensait que c'était un facteur de risque, mais c'est maintenant, on pense que c'est en fait une cause.
Oui, on pense que c'est une cause. Bien sûr, il va falloir approfondir les recherches, François, mais on commence à voir vraiment des liens très, très probants. Donc, on pourrait à ce moment-là être capable de voir venir la maladie et de trouver des façons de réduire les symptômes ou de réduire la progression si on la prend assez tôt en sachant, grâce à ces gènes-là, que ça s'en vient.
Exact. Puis on peut peut-être développer une thérapie génique où on est capable d'intervenir et de changer le cours des choses. Alors, c'est le neurologue Juan Fortera, qui est neurologue spécialisé en maladies neurodégénératives à l'hôpital San Pau de Barcelone, qui a mis de l'avant cette découverte publiée dans la revue Nature Medicine. Et ça, c'est à suivre. On va certainement en reparler tout à fait. C'est sûr qu'au début, c'est les souris qui vont nous aider.
Oui, merci aux souris.
Merci aux souris. Mais en parlant de génétique, il y a une autre découverte.
Oui, on s'en va à Londres, François. On a un gène qui serait lié à la déficience intellectuelle qui peut aussi réguler l'apprentissage et la mémoire. Oh. Donc, cette fois-ci, on parle du gène GPR126. Qui pourrait jouer un rôle essentiel dans le développement du placenta. Donc, c'est un gène qu'on a précédemment lié à la déficience intellectuelle qui, maintenant, on est capable de le lier également à la mémoire et à l'apprentissage. Toujours, c'est la souris.
Oh, d'accord. On pourrait... Donc, c'est un gène qui le développement de la mémoire et de l'apprentissage, or, est en lien avec certaines formes de maladies ou de problèmes cognitifs.
De développement, oui.
Exact. Et là, maintenant, on vient d'identifier un gène. C'est les chercheurs du King's College de Londres et de l'Université d'Exeter et de l'Université de Californie qui ont découvert une fonction réduite du gène dans le cerveau entraîne une perte de capacité. Voilà. Alors, peut-être encore une fois, une porte s'ouvre pour une thérapie génique. Bon, ben bravo. Juste avant la pause, on va revenir sur une nouvelle qui nous avait fait sursauter la semaine dernière.
Oui, on revient sur la nouvelle. Donc, on parlait de la ministre de l'Éducation qui avait fait une amalgame entre les élèves perturbateurs et les élèves en situation d'handicap lors de son passage sur France 2. Maintenant qu'elle est interrogée, donc quelques jours plus tard, la ministre a fait ses excuses. On parle de Nicole Béoubet. Elle a présenté ses excuses donc aux familles blessées et a avoué que ses propos étaient maladroits. Donc, elle comprend que ça peut porter à confusion et ça peut aider et préjuger envers les personnes en situation de handicap. Donc, elle s'est excusée, François.
De ses maladresses, évidemment, elle en a profité aussi pour dire que, évidemment, ses propos qui avaient été jugés choquants, discriminants et irrespectueux par plus d'une dizaine d'associations qui l'avaient, je dirais, dénoncé.
Oui.
Exact, tout à fait. Évidemment, ça ramène toute la problématique dont on parle à l'occasion en France, qui nous permet ça met encore en lumière, si je peux dire, qu'il y a une augmentation considérable du nombre d'accompagnateurs en France qui sont passés de 80 000 à 140 000, mais c'est toujours pas assez.
C'est toujours pas assez, effectivement, et on en a parlé dans les semaines précédentes, François, et Madame la ministre, donc, qui en a profité pour ajouter le fait qu'il y aura 3 000 AESH, donc des accompagnants pour les élèves en situation de handicap, dès la rentrée prochaine.
Oui, puis on travaille, évidemment, parce qu'après les propos qu'elle a tenus, elle était mieux de faire
une annonce pour redorer son image.
Là, parce que juste s'excuser, souvent, c'est pas assez. Les élèves en situation de handicap vers une meilleure reconnaissance du métier d'AESH en France. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont mal payés et peu considérés. Alors, on parle d'une reconnaissance qui va se traduire peut-être par des avantages sociaux qui vont être, je dirais, au niveau ou à la norme.
Améliorer à tout
exactement.
Moins, ouais.
Alors, ça fait partie de ça s'ils veulent recruter. Bien, on se reparle de tout ça dans quelques minutes à 13 heures.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin, on poursuit notre revue de presse. On parlait tout à l'heure de la faible reconnaissance dans la société française des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mais en fait, toute la fonction publique française est un peu en déficit.
Oui, toute la fonction publique française est en déficit et effectivement, on parle de moyens, de ressources, donc, pour travailler qui sont insuffisantes pour bien des cas, entre autres pour, on l'a dit, pour les accompagnatrices et accompagnateurs d'enfants en situation de handicap qui ont de la difficulté à faire valoir leurs droits, mais aussi, évidemment, dans toute la fonction française, on voit un peu le même problème et ça cause des problèmes, évidemment, au niveau du recrutement puisque les gens ne sont pas intéressés à travailler pour de maigres salaires avec des conditions de travail difficiles.
Et peu de reconnaissance. La fonction publique en France ne remplit pas son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. La fonction publique compte parmi ses salariés à peine plus de 5 % de travailleurs handicapés, alors qu'on sait que dans la population en général, la proportion, selon les définitions, est au moins le triple.
Oui.
Quand on dit 15 % de personnes en situation de handicap, on a vu tout à l'heure que l'Union européenne, selon sa définition...
est à 27
% à 27. Alors,
au Québec, on est rendu à environ à 12,
oui,
plus ou moins.
C'est
ouais.
Pas si mal, mais ça va dans le bon sens. Mais en France, 5 % de travailleurs handicapés seulement au sein de la fonction publique. On est bien loin des objectifs qui ont été fixés. En fait, il y a eu un effort au début des années 2010... Mais par la suite, on constate un plafonnement entre 2019 et 2021. Le taux d'emploi de personnes en situation handicapée a progressé bien faiblement, il semble, depuis 2019, là, que ça plafonne.
Et au niveau de la France, donc, on a des lois. Il faut avoir un pourcentage minimum dans les endroits, dans la fonction publique. On n'a pas ça au Québec. Par contre, évidemment, la loi ici n'est pas respectée. Le pourcentage ouais. n'est pas adéquat. Donc, on n'arrive pas à recruter assez pour répondre
à
la loi.
Bien, ça nous amène à une problématique qu'on voit souvent où les gouvernements émettent des politiques et où il y a des vœux pieux. Hein, les vœux
oui.
pieux, ça, on en a plein les oreilles. Après ça, il n'y a pas de coercition.
Non, bien, c'est ça, en fait. C'est que, et c'est un peu ce qui se passe au Québec. Hein, c'est-à-dire que c'est bien beau de mettre des chiffres et de dire qu'on veut recruter, que ces personnes-là à statut égal, donc vont être priorisées à statut égal, pardon, à... expérience égale vont être priorisées. Par contre, dans les questions où on ne le fait pas, ben il n'y a pas de coercition. Et au Québec, bon, encore une fois, c'est un vœu. On veut bien faire, mais il n'y a pas vraiment de surveillance. Et c'est bien facile de dire qu'un CV est meilleur que l'autre. Hein, donc,
En fait, tout le monde est pour la vertu. Hein,
oui.
Tout le monde trouve que c'est formidable, l'inclusion. Mais quand c'est le temps de la mettre en application, si on ne le fait pas, on ne se fait pas taper sur les doigts.
Donc, il y a des façons de contourner et de faire en sorte finalement de se montrer bien gentil, mais que dans les faits, on n'ait pas beaucoup plus d'inclusion à l'emploi.
Ça me fait penser un peu à toutes les fois qu'on entend parler d'organismes reliés aux Nations Unies qui
oui.
s'élèvent contre des situations qui sont scandaleuses,
oui.
mais qui sont incorrigibles. Hein? On va dire ça comme ça. Les situations sont incorrigibles parce qu'il n'y a pas de coercition.
Parce que l'ONU a le droit de parler fort, de dire qu'ils ne sont pas contents, de s'indigner. Des fois, ils s'indignent. Ça, c'est fort. Des fois, ils s'indignent. Ça, c'est parce qu'ils ne sont vraiment pas contents.
Exact.
quand j'utilise les mots indignés dans les textes de loi, c'est parce qu'ils ne sont vraiment pas contents. Mais ils ne peuvent pas rien faire de plus que de s'indigner. Donc,
c'est ça. Si les policiers... qui patrouillent nos autoroutes s'indignaient voilà, des s'indigne. Excès de vitesse sans jamais donner de contravention.
Voilà, ils s'indignent, mais on n'a pas d'amende. Là, voilà. C'est voilà. Un peu la même chose. Donc, ils peuvent se montrer indignés, mais voilà tout
c'est,
ce qu'ils vont
c'est
faire.
C'est pas suffisant. Peut-être devrait-il aussi se montrer sévère.
Oui, mais bon, c'est toute une question de financement. C'est les pays qui financent l'ONU, donc on ne veut pas trop se lever contre certains pays qui sont particulièrement puissants. Hein? Donc, c'est toujours difficile là, pour nous. Et les pays sont membres parce qu'ils veulent bien. Hein, sous,
tout à fait. Ils peuvent ne
ils
pas
peuvent
participer.
Se retirer. Ouais, ouais, ils peuvent se retirer des Nations Unies. Là, c'est volontaire. Donc, si les Nations Unies avaient trop de pouvoir, les pays se retirent. Donc, c'est voilà, politiquement, ça a été. L'idée était bonne. Hein,
mais c'est juste. Voilà. Voilà. Ben, il y a du bon dans la vie.
Il y a du bon.
Le tournesol, un symbole pour signifier le handicap invisible. On en a parlé ici déjà.
Oui, on en a parlé.
Et maintenant, moi, c'est rendu aux aéroports de Paris.
Oui, Paris va mettre adopte donc 7 mai 2024. Il est le symbole tournesol pour les aéroports de Orly et de Roissy. Donc, pour faire un petit rappel, François, c'était vraiment une bandoulière, un porte-clés qu'on pouvait mettre au cou. Pour indiquer qu'on avait besoin de services supplémentaires dus à un handicap visible ou invisible. Donc, c'était une façon de montrer aux employés qu'on avait peut-être besoin d'un peu plus d'assistance en ayant un symbole qui est joyeux, inoffensif et qui, donc, pouvait aider les personnes dont l'handicap ne se voyait pas nécessairement à obtenir des services sans avoir à mentionner l'entièreté de leur pedigree médical quand ils arrivent au comptoir.
Et ça évite un tas de questions où, des fois, on reçoit on se fait regarder en disant, ben pourquoi? Ben,
il n'a pas l'air si en situation de handicap que ça, le monsieur. Ben c'est ça.
Ben, ça a commencé à Gatwick, un des aéroports de Londres, en 2016, et le système a rapidement été adopté dans de nombreux aéroports. Ici au Canada, il y en a plusieurs aéroports qui ont maintenant offrent le service tournesol.
Oui.
Montréal est toujours touche, malheureusement.
Toronto l'a fait dernièrement, c'est de ça qu'on
Winnipeg
parlait.
Winnipeg aussi, exact. Évidemment, ben ça s'accompagne d'une formation pour le personnel au sol, parce que c'est bien beau d'identifier une personne qui a le foulard tournesol comme étant dans une situation d'handicap invisible, mais encore faut-il que le personnel sache quoi faire.
Oui, il faut être capable de la servir adéquatement. Et on a vu, François, dans les dernières semaines, quelques problèmes.
Quelques ratés.
Voilà.
Hein? Bon, alors, ce serait donc la fin de la toute-puissance de l'incontournable logo fauteuil roulant. Oui, parce que ce logo-là est bien utile, mais parfois, il cadre un peu serré les situations d'handicap.
80 % des personnes ont des handicaps dits invisibles. Donc, si la personne n'est pas en fauteuil roulant, il n'y avait pas de moyen de l'identifier. On parle, entre autres, d'handicap donc au niveau du spectre de l'autisme, entre autres choses.
Ça peut être aussi des sens, que ce soit l'ouïe, la vue.
Des problèmes d'audition, vue qui ne sont pas visibles.
Oui, pardon, ça peut être des problèmes d'élocution. Il y a des dispositifs du même genre un peu partout dans le monde. En fait, il y a un programme à New York et maintenant à Londres qui s'appelle « Please offer me a seat », « Offrez-moi un siège ». Où une badge bleue permet aux voyageurs avec un handicap invisible et nécessitant une place assise de se signaler aux autres. Bravo.
Ça, j'aimerais ça.
C'est une badge pour signaler. Alors, c'est comme une petite badge bleue, semble-t-il. En Irlande du Nord, ils ont une autre badge qui s'appelle Just a Minute, qui demande au personnel de simplement être un peu plus patient. Ça veut dire, j'ai un handicap peut-être qui fait que ma compréhension ou mon élocution, ou mon temps de réaction peut être un peu plus long.
Il faut être différent des autres et donc de prendre un peu plus de temps avec cette
Exactement.
Personne-là lorsque c'est possible.
Ça s'appelle « Just a minute ». Alors, ce sont toutes de bonnes idées qui pourraient être appliquées.
Oui, moi, il y a badge pour m'asseoir dans le métro, je le prendrais, François.
Ben voilà, exact. Ce serait mieux qu'une badge « Tasse-toi, mon oncle ».
Je n'y ai pas celle-là, mais celle-là aussi, je la prendrais.
Celle-là, ça serait bon aussi. Hein? Bon, enfin, on revient au Canada et c'est le temps de notre chronique aérienne.
Oui, voyage, j'ai la suite à les idées, François, vous me direz. Donc, effectivement, on a eu le sommet national sur l'accessibilité qui a eu lieu à Ottawa. On en parlait dans les dernières semaines, on l'avait annoncé, François. C'est maintenant chose faite. Ça a été fait donc il y a quelques jours et l'industrie était présente, donc entre autres Air Canada qui est allé, Air Transat, il est grand PDG, aussi des personnes défendresses des personnes en situation de handicap, donc différents organismes qui est allé pour améliorer évidemment le service des personnes en situation de handicap lors de leur voyage sur les lignes aériennes. On en a parlé plusieurs fois, François. Il y a eu beaucoup de ratés, des personnes qui ont été mal servies, des fauteuils qui ont été détruits ou endommagés. Donc, effectivement, ce sommet-là, ça voulait une première initiative pour tous se mettre sur la même longueur d'onde et essayer de trouver des solutions pour que les personnes en situation de handicap soient mieux servies lorsqu'ils voyagent.
Quand le sommet avait été annoncé, il y a de ça quelques semaines, on avait eu écho du fait que plusieurs personnes dans la communauté des personnes handicapées au Canada étaient sceptiques comme quoi ça allait être un bel événement avec médiatisation, avec photos, poignées de main, documents, pochettes d'informations.
Qu'on faisait ça pour prendre des belles photos et redorer notre image au bout de la ligne, mais exact. Que ça ne changerait pas grand-chose.
Et pour dire, ben, on l'a fait, voilà, on a coché la case. Madame Mayanne Ziv, qui elle-même a fait les manchettes quand son fauteuil a été littéralement détruit.
Oui.
Il y a de ça quelques trimestres, et qui est une entrepreneur dans le domaine de l'accessibilité. Selon elle, une partie du problème est le fait que les décisions dans l'industrie du voyage sont principalement prises par des personnes qui ne vivent pas des situations d'handicap.
Ah, surprise, François!
Surprise, voilà! Ah là là! Hein, on a l'impression que ça finit toujours par se ressembler.
Hein? Oui, plus ça change, plus c'est pareil.
Oui. Ah, bien, tiens, en Nouvelle-Écosse, là aussi, il y a peut-être un petit coup de poing à donner sur la table.
Oui, en Nouvelle-Écosse, donc, il y a des personnes qui sont sorties dans les médias, dans la sphère publique, pour dire que les personnes en situation de handicap devaient faire valoir leurs droits et que... les droits n'étaient pas respectés, entre autres dans les foyers de soins, dis-je.
Oui, puis ça, c'est une situation qui remonte, si on retourne derrière, il y a eu une victoire juridique en 2021. La province a été forcée par les tribunaux à accepter une proposition visant à aider les personnes handicapées à sortir des soins en établissement et à accéder à un logement dans la communauté. Un peu le même combat qu'on voit ici au Québec avec les personnes en situation d'handicap qui sont coincées dans des CHSLD qui ne sont pas conçus pour eux. Une partie du plan quinquennal publié en avril 2023 suite à cette victoire juridique de la communauté des personnes en situation de handicap de néo-écossaise, demandait à la province de mettre fin avant le 31 mars de cette année-là aux nouvelles admissions dans les établissements appelés centres résidentiels pour adultes. Mais ça ne s'est pas fait.
Non, encore une fois, surprise, François.
Ben, ils continuent d'admettre ou d'intégrer à des centres qui ne sont pas adaptés, des personnes qui ne devraient pas y être. Et ça déroge au plan quinquennal que le gouvernement lui-même avait déposé suite à une semonce juridique. Alors vraiment, ça, on fait preuve...
On tourne un peu en rond au niveau de la Nouvelle-Écosse et puis encore faut-il, ne pas entrer ces gens-là dans des centres de soins, mais encore faut-il avoir une autre solution et à mettre en place rapidement, François, et c'est ça qui semble ne pas avoir été fait, c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas contre la vertu, on a dit oui, on va arrêter d'y rentrer par cette porte-là, mais on n'a pas trouvé un autre endroit où y mettre.
Ben voilà, alors, est-ce que cette mauvaise volonté, moi je sais que dans la vie, il s'agit soit de malice ou d'incompétence, hein? Alors, dans ce cas-ci, je pense que l'aiguille est du côté incompétence.
Oui, voyagement d'un ce soit... c'est pas de la malice.
C'est pas de la malice, mais c'est de l'incompétence. Mais quoi qu'il en soit, ça change rien.
Et
le
évidemment,
résultat est le même.
Problème de ressources. Il faut débloquer des ressources. Et c'est jamais la priorité de débloquer des ressources pour les personnes en situation de handicap, malheureusement.
Exactement. Alors ça revient toujours au bout du compte. Oui. Comment ça va se traduire dans le prochain budget? C'est un peu la même chose. En Alberta aussi, il y a des ratés.
Oui, il y a Busman qui demande à l'Alberta de changer ses règles pour une aide à l'invalidité. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu au Québec dernièrement. Il y a Busman qui est une personne qui est nommée par le gouvernement pour faire une espèce de vérification
oui.
De ce qui se passe en Alberta. C'est un peu, si vous voulez, équivalent là, du...
J'ai perdu le nom.
Il y a vérificateur, oui, voilà, merci. Il y a vérificateur général au Québec. Donc, une personne qui est supposée être hors des cercles politiques, donc d'être objective et de donner des rapports sur différentes situations. Là, on parle donc de l'ombudsman de l'Alberta qui s'appelle Kevin Brzezinski. C'est lui qui est en poste en ce moment et qui dit que finalement, au niveau de l'invalidité pour les personnes en situation d'handicap, ça ne fonctionne pas et qu'on doit revoir les lois.
La cour du banc de la Reine s'était penchée sur les modalités d'octroi d'aide il y a une dizaine d'années.
Oui.
Et les avait déjà, à ce moment-là, jugées défectueuses.
On parle de 2013, François,
ben,
quand
oui,
on dit
exactement.
Que ça avance pas vite, là.
Alors, ce dossier a été rejeté en 2013. Ça l'avait pour une jeune femme atteinte d'une forme d'autisme. Ça l'avait... fait tout le processus judiciaire jusqu'au banc de la Reine et la Cour avait statué que la procédure de la province était défectueuse. Eh bien, voici 10 ans plus tard, ça ne semble pas avoir changé.
On parle entre autres de tests qui sont trop stricts pour dévoyer ou non la situation d'handicap. Entre autres, on met un quotient intellectuel limite pour être ou non en situation d'handicap. Et ça, ben, c'est de ne pas voir au niveau des besoins de la personne.
Exact.
Et de répondre simplement par des chiffres. Alors qu'on sait tous les problèmes qu'il peut avoir là, à avoir un test qui est adéquat à faire passer des personnes en situation d'handicap. Donc, quand on parle de tests de QI, peut-être que c'est pas adéquat pour voir si une personne est en situation d'handicap ou non.
Les technocrates aiment ça, les trucs simples
où les
chevilles sont rondes ou carrées et les trous sont en conséquence. Puis, voilà. Malheureusement, les humains ne sont pas bâtis ainsi. On revient après la pause.
Thank you.
Rick Wakeman, claviériste de rock progressif des années 70. Hein? Alors, on est dans ce créneau-là aujourd'hui. Il a joué aussi avec le groupe Yes. Rick Wakeman avait une formation classique. Il vit et se produit toujours, d'ailleurs. Ça, c'était Catherine d'Aragon, tirée de l'album Les Six Femmes d'Henri VIII. Voilà, à ajouter à notre liste de pièces favorites, Madame Pellerin.
Oui, je vais y ajouter pour vous, François, et écoutez dans ma voiture.
Ben, bravo. Ah, ben, on va reparler encore du défi sportif qui s'est terminé il y a déjà 10 jours, mais qui fait des petits.
Oui, parlons-en. Donc, en fait, après justement la 41e édition qu'on a vue il y a quelques jours et dont on a parlé, on sait maintenant qu'il y a des filles Alter Go. Va voir un peu de pays, c'est-à-dire qu'il va être déplacé et organisé dans d'autres villes, dans différents pays. Donc, avant, c'était exclusivement à Montréal à chaque année. Et maintenant, on va avoir une première hors Québec qui aura lieu à Colombie-Britannique. Et par la suite, ce sera dans les Maritimes. Donc, l'année suivante, on sera dans les Maritimes. Donc, ça permet à plus de gens d'y avoir accès. Alors que parfois, venir jusqu'à Montréal, ça peut être difficile pour les gens qui n'ont pas le budget nécessaire au niveau des horaires, des déplacements. On sait, François, à quel point c'est facile de déplacer une personne en situation de handicap grâce à des avions, n'est-ce pas?
Oui. le pays est grand, c'est difficile de tout faire sans transport adapté. voilà.
Bon point.
Mais effectivement, la formule du défi sportif qui est vraiment unique dans le sens où souvent dans les événements sportifs pour les personnes en situation d'handicap, il y a les Paralympiques qui regroupent les personnes qui vivent avec un handicap physique et les Olympiques spéciaux qui regroupent des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel. Et ce qui arrive souvent, ce cloisonnement-là, c'est bon et c'est moins bon. Mais ce qui est la beauté du défi sportif Altergo qu'on a ici depuis plus de 40 ans, donc à Montréal, c'est que tous les gens qui vivent avec des situations d'handicap sont réunis.
Oui.
Et en plus, non seulement il y a des volets compétitifs de haut niveau.
Et il y a des volets qui sont plus amicaux.
Exact. Le volet scolaire qui va regrouper des enfants, des gens de pas nécessairement les meilleurs athlètes, mais ceux qui s'amusent le plus.
Oui,
voilà. Bien.
Voilà. Des enfants qui s'amusent, des enfants pour lesquels faire du sport leur donne des avantages au niveau social ou des avantages au niveau de leur santé physique.
Oui.
Donc, on veut pousser ces jeunes-là à faire du sport, bien sûr, dans leur plaisir. Donc, c'est une façon de voir des collaborations donc entre des athlètes de très haut niveau et des athlètes qui sont plus débutants et de voir tout le monde qui travaille dans la même pièce et qui font leurs choses et qui s'entraident entre eux. Donc, c'est vraiment une façon de montrer qu'au final, on est tous du même bateau. Hein,
on est tous à la même adresse.
Voilà.
Exact.
Et qu'au final, l'important, c'est de s'amuser et de se dépasser. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose
qui est unique au défi sportif Altergo. Donc, encore une fois, ça se déplace. Il va y avoir un défi sportif 2.0, si je peux dire, à Victoria, comme vous l'avez mentionné, en Colombie-Britannique l'année prochaine. Ce sera à Sudbury en 2026, dans les Maritimes en 2027. Alors, c'est une formule là, qui est en train de faire tache d'huile. Ça c'est la partie sombre de notre chronique Oreo. Il y a un centre d'équithérapie qui va fermer.
Le centre d'équithérapie de la remontée, donc, qui est obligé de fermer, qui annonce donc la fin de ses activités. C'est un organisme qui permettait aux personnes qui vivaient avec un handicap physique ou intellectuel de faire des kinéthérapies, donc à l'aide du cheval. Et donc, on accueillait 125 personnes de tous âges et avec différents besoins particuliers au travers des ateliers encadrés par des bénévoles. Malheureusement, encore une fois, faute de ressources, ça devra fermer.
Oui, cet organisme qui était, je pense, en bourse, mes informations sont justes, une pétition a été lancée en ligne sur le site change.org et déjà il y a plus de 1000 signatures après 24 heures. Le manque de financement de ressources, la directrice générale de l'organisme, Mme Hélène Caron, révèle que le sous-financement chronique des organismes communautaires, la pression de l'inflation post-COVID et le manque de main-d'œuvre spécialisée ont rendu la situation du centre précaire. Alors ça, c'est l'équithérapie, ça fonctionne et voilà 125 personnes qui en bénéficient.
C'est excellent à la fois et... pour la santé physique, donc pour oui. Les muscles et pour la santé psychologique
Exactement.
Des personnes. Donc ça peut travailler sur plusieurs aspects et effectivement, si vous êtes intéressé, donc une pétition qui est en ligne.
Tout à fait. C'est pour le centre, la remontée. Logement, l'école de Saint-Elzéar de Bonaventure, ça c'est en Gaspésie. Vous allez à la baie des Chaleurs, puis là vous remontez un petit peu dans les terres, en haut de Chandler. Et puis à Saint-Elzéar, il y a un projet de transformation d'une ancienne école qui va devenir maintenant des logements adaptés puis à prix modique.
Oui, pour accueillir entre autres des travailleurs forestiers et des aînés. Donc, c'est un projet en deux phases évalué à 700 000 $. L'école est fermée depuis 2018. Donc, on veut l'adapter pour répondre à la crise du logement, en fait, parce qu'on a de la difficulté, entre autres, à... recruter des travailleurs et évidemment aussi à avoir des logements adaptés et modiques pour les personnes aînées. Donc, on fait une pierre deux coups
exact.
Et cet édifice-là qui ne servait plus depuis plusieurs années va retrouver vie.
Tout à fait. Depuis 2018, l'école était fermée et Saint-Elzéar de Bonaventure, ben c'est quand même un coin un petit peu éloigné des centres.
Oui.
Donc, pour attirer de la main-d'œuvre pour la coopérative forestière.
Il faut offrir un logement parce que les gens, évidemment, ne déménageront pas s'ils n'ont pas de logement où aller.
Exactement. Et en plus, ben si ça permet également d'offrir des logements à des personnes âgées dans la région, ben c'est tant mieux. Alors ça, c'est une belle collaboration entre la municipalité et des promoteurs locaux, dont M. Danny Babin. Le CIUS de l'Estrie aurait besoin un peu du même support, mais on en reparlera peut-être une autre fois, parce que déjà, ça achève chez nous. Merci beaucoup, Élisane.
Merci, François.
On se reparle dans quelques semaines parce qu'il va y avoir des congés.
Oui, on a quelques congés de fête et on sera là.
Parfait. On se retrouve. Merci. Mathieu Tessier, Samuel et Claire Guérin à la recherche.